Et cette semaine politique chargée qui s'annonce et qu'on va décrypter avec vous, Nicolas Tenzer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et professeur à Sciences Po. Alors ça va commencer mardi à 13h10 avec cette interview télévisée d'Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet. D'abord sur la forme, Nicolas Tenzer, retour à la tradition, hein, cet entretien à la télé le jour de la fête nationale, le chef de l'État pourtant l'avait lui-même supprimé.
Oui, exactement. C'est un retour à une tradition qu'il avait lui-même effectivement supprimée. Je pense parce que il a compris que plutôt que de faire une intervention solennelle, il était peut-être préférable en termes de communication de répondre à des questions de journalistes, que ça donne un ton peut-être plus ironique, plus personnel, moins solennel. Et à partir du moment où il souhaite renouer avec les Français, je crois que c'est ce mode-là qu'il a entendu privilégier.
Sur le fond, on a déjà le contexte, relance économique, reconstruction avec ses volets sociaux et environnementaux. Il évolue sur une ligne de crête quand même, le président, non ? Lancer la reconstruction, mais sans non plus se renier.
Oui, c'est effectivement la difficulté, sachant qu'aujourd'hui il y a une priorité, je crois que c'est une priorité pour tout le monde, hein, quelle que soit la couleur politique d'où l'on est, c'est évidemment relancer, parce que si nous n'arrivons pas à refaire repartir l'économie de manière solide, si nous ne parvenons pas à renouer avec la croissance, tout simplement les faillites vont s'accumuler, le chômage va augmenter, et donc la pauvreté, la précarité vont s'installer, et ça ce sera catastrophique pour le pays. Donc c'est la priorité, je pense, qui dépasse de loin toutes les autres. Et c'est vrai qu'en même temps, ça suppose peut-être de mettre un petit bémol sur un certain nombre de réformes, mais comme le président de la République, lorsqu'il était candidat, a fait campagne sur la réforme, il doit montrer que malgré tout, il tient le cap et qu'au-delà de l'action conjoncturelle pour la reprise, il y a des facteurs structurels, en quelque sorte culturels d'ailleurs aussi, qui peuvent permettre à terme à l'économie de repartir sur des bonnes bases.
Tenir le cap, mais fixer un nouveau chemin, c'est désormais comme ça que parlent les communicants de l'Élysée de cette nouvelle étape du quinquennat, avec donc ce volet emploi, notamment, qui figure parmi les priorités de l'exécutif.
Oui, c'est la priorité, c'est quand même là-dessus, en grande partie, que va se jouer l'élection de 2022. C'est-à-dire que Emmanuel Macron sait parfaitement que s'il entend pouvoir être candidat à nouveau, avec de fortes chances de l'emporter, ou des chances raisonnables en tout cas de l'emporter, il faudra effectivement que l'économie et donc l'emploi soient au rendez-vous. S'il échoue dans cette reprise, s'il échoue à convaincre, si l'économie est en berne, je crois que évidemment, ça va faire le jeu de tous ses adversaires, et première partie, évidemment, du côté du Front National ou de l'extrême-gauche. Et donc, je pense que c'est vraiment l'enjeu premier. Charles, je crois qu'il le sait. Et je crois aussi qu'il sait que, on l'a vu, hein, avec les cotes de popularité qui n'étaient pas exactement alignées à l'époque d'Edouard Philippe et du président de la République, il faut aussi qu'il regagne une popularité qu'il a en grande partie perdue. Donc, il faut qu'il convainque. Bien sûr, il y a les résultats, mais il y a la conviction, il y a la communication. Et là, il y a comme beaucoup de changements, je pense, à opérer.
La deuxième étape de cette semaine politique, ce sera mercredi, au lendemain de cette intervention télévisée d'Emmanuel Macron, la déclaration de politique générale de Jean Castex. Est-ce que c'est une intervention seulement pour la forme, alors que, encore une fois, Emmanuel Macron aura dressé la feuille de route la veille ?
Je pense qu'il y a un partage des rôles évident, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a des grands axes, les orientations, et puis après, il y a le détail. On a pu avoir par le passé des discours de politique générale qui duraient parfois 2 heures, 2 heures et demie, avec des détails très précis dans lesquels, évidemment, le président ne peut pas entrer à l'occasion de l'interview donnée le 14 juillet. Donc là, il va falloir qu'il y ait une feuille de route détaillée. En plus, Jean Castex a sa propre personnalité aussi, hein. Je pense que c'est quand même très important. C'est quelqu'un qui n'est pas une sorte de collaborateur, il l'a dit lui-même, de Premier ministre bis, il a ses propres orientations, il a son caractère, et donc je pense qu'il devra aussi effectivement imprimer sa marque. Et je pense que c'est très important pour l'exécutif et pour le président lui-même d'avoir un Premier ministre qui ait son autonomie, et d'avoir d'ailleurs des membres du gouvernement, c'est un peu ce qui a manqué, qui aient leur propre personnalité. Parce que si le président entend l'emporter en 2022, il ne pourra pas l'emporter tout seul. Il faut que derrière, évidemment, il y ait une équipe, il y ait des gens, il y ait des têtes. Et je crois que ce n'est pas en bridant les têtes ou en les alignant, ou en les mettant en cordeau en quelque sorte, que le président pourra réussir.
Vous dites des rapports, en tout cas des rôles clairement définis. Ces derniers jours, on a beaucoup vu Jean Castex sur le terrain. Il était à Dijon vendredi, il est en Guyane en ce moment. C'est lui qui gère les urgences défense, désormais sécurité, virus, c'est ça le rôle du chef du gouvernement aujourd'hui ?
C'est le rôle, oui, comme Édouard Philippe pendant d'ailleurs la crise de Covid-19. Hein, je veux dire, on a vu quand même celui qui était vraiment, si j'ose dire, au front, en première ligne, qui donnait le détail de ce qu'il fallait faire, qui fixait le cap, qui réunissait les ministres, les comités, etc. Même si c'était sous la supervision, évidemment, du président de la République, c'était le Premier ministre. Et Jean Castex, de ce point de vue-là, ne sera pas différent. Et donc, je pense que c'est très important que ce soit lui qui, effectivement, son autonomie, qui une marge de manœuvre aussi, bien sûr, dans le cadre des orientations. Parce que c'est comme ça que fonctionne cette fameuse hiérarchie au sommet de la Ve République.
Nicolas Tenzer, vous êtes avec nous pour évoquer cette semaine politique chargée. Et en fin de semaine, cette semaine, la semaine prochaine, elle se terminera par la nomination des secrétaires d'État. Ce sera la fin d'un remaniement. Près de 2 semaines après la nomination de Jean Castex, comment expliquer un tel délai ?
Oh ben, je pense qu'effectivement, d'abord, il ne faut pas faire d'erreur de casting. Ensuite, ce qui était prioritaire, c'est d'avoir effectivement des ministres. Et je pense que c'est une manière indirecte de montrer qu'il y a une hiérarchie entre les ministres et les secrétaires d'État. Peut-être mieux affirmée, à l'exception évidemment du secrétaire d'État porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, de marquer une meilleure hiérarchie entre les deux, les ministres d'un côté, les secrétaires d'État de l'autre. Deuxièmement, bien sûr, il va falloir ajuster peut-être un certain nombre d'équilibres tout en respectant la parité, parce que chez les secrétaires d'État aussi, il y aura une parité exact. Il y a peut-être encore quelques hésitations, il y a peut-être encore des discussions évidemment entre le président et le premier ministre et les ministres d'ailleurs auxquels vont être rattachés certains de ces secrétaires d'État. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, je pense que ce sera très intéressant de voir si on a des secrétaires d'État qui sont un peu dans la ligne, je dirais, politique de ce gouvernement ou s'il y a des têtes un peu nouvelles, un peu aussi disruptives que certains peuvent l'être.
Faire durer le suspense, c'est aussi une façon de s'assurer le soutien de la majorité. On sait qu'à l'Assemblée nationale, un certain nombre de députés seraient potentiellement intéressés par des secrétariats d'État.
Oui, bien sûr, il y a des personnes de grande qualité, des parlementaires qui sont assez fidèles finalement et qui effectivement se disent finalement on nous a pas suffisamment écoutés. Donc là, je pense qu'il y aura une bonne part donnée à cette catégorie de parlementaires LREM, peut-être aussi certains collaborateurs anciens, soit du président, enfin essentiellement sans doute du président et du premier ministre, qui pourraient venir effectivement appuyer cette équipe. Mais je crois que c'est très important d'avoir effectivement les meilleurs, je pense, du groupe LREM. Ce serait effectivement, dans la perspective évidemment de la présidentielle, du rassemblement, important. Parce que ce qu'on a vu quand même avec les municipales, c'est que le parti LREM lui-même était en très mauvais état. D'abord qu'il n'y avait pas beaucoup de relais locaux, qu'il n'a pas vraiment imprimé, que les têtes en quelque sorte de ce parti n'avaient pas de grande visibilité. Je pense qu'il faut vraiment corriger cela. Et je pense que c'est une manière de rassurer le parti.
Une façon de ressouder aussi la majorité. Merci pour cette analyse en direct ce soir, Nicolas Tenzer, politologue, professeur à Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.